Oui. Vous êtes né à Bannon, c'est
Ben,
ça?
moi, je suis né à Bannon en 1955. Et comment dire, je suis né donc dans une famille de gens modestes, quoi, c'était des paysans. Et je suis né à l'hôpital de Bannon. L'hôpital, il avait été créé grâce à deux personnes qui avaient donné. Une personne avait donné le terrain. Il s'appelait, comment il s'appelait, je ne me rappelle plus, ça ne me revient pas là, mais bon, il avait donné le terrain, exposé au sud, là, et Dieudonné Colomb, il s'appelait. Et une dame qui, en mourant, avait fait don à la mairie d'une somme extraordinaire. Donc, quand ce Dieudonné Colomb a su que cette dame avait donné l'argent, elle avait dit pour faire un hôpital, un hospice, quoi, hôpital-hospice. Et lui a dit, ah ben moi je donne le terrain. Et il a donné le terrain, ça s'appelle le Gros Joseph, là, bon. Parce que lui, il avait peut-être acheté un Gros Joseph. Bon. Et donc ils ont fait l'hôpital. Et moi je suis né là. Mon frère est né là 9 ans avant. Et c'était les sœurs qui étaient là. Ma mère a été accouchée par une sœur, une bonne sœur. Et une pensionnaire de. Et même une pensionnaire qui savait accoucher. Donc, enfin, je suis né là, dans une famille de gens très chouettes, très aimants, enfin voilà. Et puis, on avait à la fois une maison dans le village, où il y avait un café, quincaillerie, enfin, et on vendait toutes sortes de trucs, aussi bien les bouteilles de gaz que les couronnes mortuaires. On vendait du miel, des choses que fabriquait ma grand-mère avec de la lavande, là, des bouteilles tressées avec des rubans, enfin, toutes sortes de choses, même des tableaux d'une amie et de la famille, Aimée Castaing, qui était peintre, et on exposait ça dans la vitrine. Bon, l'été, c'était pas les gens du village qui achetaient ça, mais bon, enfin voilà. Et donc, il y avait ce point à Bannon au village, et on avait aussi une ferme entre Bannon et le Comtadour, à 5 km du village. Et là, on avait un troupeau, un rucher, bon, on ramassait le tilleul, on ramassait les champignons, mais il n'y avait pas de terre cultivable. Et la lavande aussi, la lavande sauvage. Et il n'y avait pas de terre cultivable. Il y avait un demi-hectare en bas, que mon père a ensemencé de 5 fouets et qui coupait à la faux, là, bon. Mais il n'avait pas de tracteur. On avait juste une camionnette, là, une bagnole. Et l'hiver, ils coupaient du bois. Enfin, c'était une civilisation, on peut dire, où il manquait pas de maillons, quoi. Parce que, une année, s'il n'y avait pas des agneaux, par exemple, on avait un troupeau de 100 bêtes, je crois, à peu près. S'il n'y avait pas d'agneaux, il y avait du miel. S'il n'y avait pas de miel, il y avait des champignons. S'il y avait et tout ça faisait qu'on n'a jamais été. Mes parents n'ont jamais été riches, mais on a manqué de rien, et c'était pas dans leur esprit, c'était pas dans leur tête, et tout ça.
Il n'y avait pas encore la Pâque et tout ça.
Ben non, alors au village, il y avait des gens, déjà des paysans ils avaient des terres cultivables et tout, donc ils avaient un tracteur ou deux, mais mes parents étaient un peu des marginaux voilà. Donc moi j'ai vécu en haut, ben j'allais à l'école au village, mais on faisait des allées-venues, et puis quand il y avait des vacances, on restait en haut. Moi, j'ai vécu en haut, là. Donc, seul, avec mes parents, mais seul, parce que, bon, des fois, il y avait des copains qui montaient, mais c'était un peu loin, quoi. Et puis, mon frère était plus âgé, donc il n'était plus là, déjà. Enfin, on n'a pas vécu ensemble. Et je me suis jamais ennuyé, là. Bon, il y avait une source au milieu du pré. Un enfant avec de l'eau, au milieu de tout ça. Enfin, il n'y avait pas moyen de s'ennuyer. Moi, je ne me suis pas ennuyé. Et donc, bon, j'avais une double. Soit j'étais seul, soit j'étais avec les copains à Bannon. Et voilà, ça fait une vie. Donc, en bas, ben, je faisais partie de l'équipe de foot, après, bon, tout ça. Et on faisait des cabanes, bien sûr, comme tous les gosses de la campagne. Et puis un jour, un autre joueur, un ami, un copain, m'a percuté, et je me suis bousillé le genou, là. Et donc, je remontais au village avec un genou comme ça. Et le docteur du coin, enfin du village, a dit, oh, tu restes, soit on t'opère, soit tu restes allongé à 1 mois. Et moi, j'ai dit, mes parents m'ont dit aussi, bon, si vous restez allongé avec moi, pas de problème. Mais ça m'a pas, bon, ça ne m'a pas soigné, ça m'a pas, je me suis retrouvé, bon, comme j'étais jeune, mon genou a tenu par les muscles et tout, mais les ligaments étaient foutus et tout. Mais bon, ce séjour dans mon plumard, en bas, là, j'étais obligé de rester avec la jambe immobile. On m'a apporté une radio et là j'ai découvert l'émission de Jacques Chancel, Radioscopie. Et ça m'a... J'entendais un scientifique, j'entendais un curé, j'entendais... Et c'était pas une fois par semaine, hein, ou alors mon souvenir... J'ai l'impression que c'était tous les jours. Enfin, je me trompe peut-être, je sais pas. Mais ça m'a ouvert. Extraordinaire.
Ouais.
Et j'attendais ça, parce que...
Vous aviez quel âge ?
Oh, là, j'étais jeune, hein, j'étais jeune. Là, je devais avoir 13 ans, 14 ans,
c'était
jeune.
C'était déjà le lycée.
Ah non, j'étais à au collège.
Hein. Ah oui, au collège.
À 14 ans.
Mais après le primaire, quoi.
Oui. Oui, parce que ça allait, on appelait ça le CEG, c'était après le primaire,
oui, voilà,
on allait jusqu'au brevet, et donc voilà, et puis aussi une autre chose, alors ça m'a ouvert, quoi. Ça m'a,
ouais.
Bon, ben, je suis resté de toute façon de plein pied avec les copains encore, ça n'a pas renié, j'étais jusque-là, mais ça m'a ouvert.
Oui, alors que les copains, eux, ils n'écoutaient pas.
Eh bien, les copains, ils ne savaient même pas que ça existait. Ils étaient beaucoup plus... Non. Ben, peut-être quelques-uns ont dévié aussi, forcément, parce que la vie fait qu'elle tourne quand même. Mais... Et puis aussi, une autre chose, c'est que... Donc, avec la bande de copains, là, on était des fois dans le village, enfin, souvent... Il y avait en haut de l'église du village une vieille église désaffectée. Elle était désaffectée parce que le village est descendu. Parce que, comment dire, les commodités étaient en bas, les commerces.
La route.
Voilà. Donc, il y avait le curé Ariost avait fait construire une autre église en bas, toute neuve. Parce que les gens ne montaient plus à la messe.
Oui, c'est trop.
Ils habitaient en bas et... Donc, il y avait cette église désaffectée au sommet du village, et nous, on allait voir, on voulait toujours savoir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, il n'y avait jamais moyen, enfin, on regardait par le tour de la serrure, on inventait des trucs, tout ça. Bon, et puis un jour, on voit ça ouvert, on n'a pas vu ouvert, mais on a entendu dire qu'il y avait une association des gens du village, là, qui... les plus intéressants du village, qui avaient créé une association qui s'appelait les Amis du Vieux Banon pour mettre en valeur le Vieux Banon, tout ce qui s'intéresse, tout ce qui correspondait à la vie du village autrefois, tout ça, bon, et qu'ils allaient, alors ils avaient demandé au maire s'ils pouvaient occuper cette église pour faire des expos. Les expos, nous, on n'avait jamais vu une expo. On savait pas ce que... Il y avait juste un truc que je... Dans la boucherie, il y avait la cruche cassée de Greuze, une reproduction au-dessus de la machine à jambon. Mais on connaissait pas la peinture, on savait pas. Donc, on a dit, oh ça, alors une expo, on va voir une expo. Bon. Et puis un jour, c'était ouvert pour l'expo, quoi. C'était plein de pigeons. Ils avaient foutu les pigeons dehors. Ils avaient badigeonné un peu les voûtes, les murs. Là, ça, c'était propre. Et donc, ils avaient fait une expo de groupe, là, de peintres, une expo de groupe. Et on est rentré là-dedans. C'était impressionnant pour nous, quoi. Et donc, moi, je fais le tour comme ça. Bon, enfin. Et puis, quand je ressors, j'avais vu qu'un tableau. C'était un tableau de Serge Ofurio. J'ai vu les autres, mais il m'en restait celui-là, quoi.
C'était à peu près en quelle année, ça?
Ça, c'était en 65. J'avais 10 ans.
Ah oui.
10 ans. Oui, j'avais 10 ans. Je sais que c'est 65 parce que j'avais retrouvé dans un tiroir chez mes parents, j'avais retrouvé le programme de cette... Il y avait pas le programme, mais la liste des exposants. Et donc, je me suis souvenu que c'est en 65. Et à partir de là, je vois ce tableau, c'était un pied de chardon sur un grand plateau de neige, comme ça. Et Serge Furiot, c'était écrit, il signait toujours très très bien, comme un écolier qui s'applique, sa signature est bien lisible. Bon, la peinture, elle est pas réaliste, mais figurative.
Oui, il y a du dessin. Oui.
Figurative, mais pas réaliste, quoi. C'est un truc un peu dingue, quand même. Si on y pense. Et donc, je gardais ce tableau, et surtout, j'ai gardé le nom du peintre. Et après, je regardais dans le journal, au bistrot de mes parents, de ma grand-mère. Ah, je voyais que de temps en temps, il exposait à droite, à gauche, tout ça. Et bon, moi, j'avais pas de moyen de transport, j'étais trop jeune. Mais j'ai gardé le fil. Et après, la vie a continué. Donc, ça m'avait ouvert. Je commençais à m'intéresser à ce qui était de la culture, qui n'était pas la nôtre, quoi, si on veut. Et donc, j'ai continué. J'étais interne au lycée de Manosque. Et là, je suis resté. Bon, quand je suis arrivé, du coup, j'ai dit, oh, mais tiens, je vais aller voir Jean Giono. J'étais gonflé. J'avais 16 ans. J'ai dit, je vais aller le voir. Et là, dès qu'on arrive à l'automne, voilà qu'il meurt. Et j'arrive et il meurt. On nous a foutu dehors du lycée parce qu'il y avait l'enterrement. Ça a duré 2-3 jours, les fêtes. Donc le lycée était fermé, quoi, en deuil un peu. Et puis bon, tant pis. Mais je me suis intéressé. Ça m'avait ouvert, je m'intéressais aussi aux gens qui étaient dans mon pays, quoi. Alors il y avait ce Serge, et j'avais sûrement lu dans le journal qu'il y avait aussi Maximilien Vox à l'URSS, qui avait créé une école de typographie. C'était un grand typographe, mais bon. Et voilà que je lui ai écrit. Je lui ai écrit et je lui ai dit, vous êtes là, et comme à Serge, je leur ai écrit à tous les deux.
Je dis,
Oui. Je leur ai écrit, et je sais que vous êtes là, alors un que vous peignez, je sais, mais et l'autre que vous êtes passionné du pays aussi, parce qu'il était, quoi. Et pourquoi vous êtes installé ici, et qu'est-ce qu'il en est? Oh, ils m'ont répondu tous les deux, chacun une magnifique lettre. Magnifique. J'ai gardé ces lettres. Et bon, Maximilien Vox, il était âgé, puis il s'est pas fait très vieux. Enfin, je lui ai plus réécrit. Je lui ai sûrement remercié, mais il est décédé. Bon, on n'a pas eu plus de. Mais Serge, quand il m'a répondu, comme je lui avais écrit du lycée de Manosque, il m'a dit, mais puisque vous êtes à Manosque, vous êtes interne au lycée, on peut se voir. Dans un mois, il y a la foire de la Saint-Pancras, là, j'y vais, je vais chercher des fleurs pour mon jardin, j'y vais, on peut se voir, on peut se donner rendez-vous, on boira un coup, on fera connaissance. Ah, j'ai dit, ouais, d'accord, ouais. Donc, je vois, on se donne rendez-vous à la porte Soubéran, en haut, vers le lycée. Et je vois arriver un mec en sandales, mais il n'était pas comme les autres. J'ai dit, oh, c'est lui. Moi j'avais les cheveux longs jusque-là. Et lui aussi a dit, c'est lui. Enfin, donc on s'est rencontrés là, et on a fait le tour de la foire, on a fait connaissance, bon. Et je me rappelle, on a rencontré la fille Giono, on a rencontré, parce que lui connaissait tout le monde, là, bon. Enfin voilà, on a fait le tour, et puis il m'a dit, quand vous voulez, vous venez voir les tableaux. Et moi j'étais ravi, j'ai dit, je veux venir, je viendrai. Et donc, un jour, après j'ai eu une mobylette, je suis parti aller le voir, mais j'avais pas téléphoné, rien, j'arrive, et...
Il habitait où?
Il habitait à Montjustin, lui. À Montjustin, c'est près de Rayanne. Il était là depuis 1947, Enfin, il a eu une vie avant, plusieurs vies avant. On a plusieurs vies dans la même vie. Enfin, depuis 1947, il était là. Parce qu'il voulait vivre ici. Et vraiment. Et il a vécu de 47 à 2011, ici. Il n'a pas voulu partir. C'était son paradis. Et alors, un jour, je vais le voir là-bas, mais j'arrive. Il y avait une vieille femme dans le jardin. Et elle avait un bouquet de fleurs à la main, comme ça, et elle chantonnait. Et je dis, je voudrais... Vous connaissez Serge Furiot, je voudrais savoir quelle maison, où il est, quoi. Il me dit, c'est là, la première porte sur votre gauche, il n'est pas là, mais rentrez voir les tableaux. Je me dis, direct, rentrez voir les tableaux. Alors moi, j'étais quand même... des fois, j'étais gonflé, mais des fois, j'étais réservé aussi. Là, j'ai dit... Je lui ai dit non, elle m'a dit je suis sa mère, quoi, je suis sa maman, elle avait 80, plus de 90. Et je lui ai dit non, je reviendrai quand il sera là. Ouais. Je préfère pas rentrer. Ouais. Mais c'était ouvert, enfin, ils avaient pas de. Bon, elle était contente qu'un jeune vienne voir. Ouais. Donc je suis reparti et elle m'a dit, mais alors il faut téléphoner, quoi. Sinon, il est peut-être à tailler les oliviers, ils avaient planté des oliviers, enfin, ou au marché, ou bon, enfin, il faut téléphoner. Et donc, je me rappelle, je sais plus, c'était le zéro, c'était la cabine, c'était le zéro. Quand il décrochait, tu entendais les poules aussi. Qui faisait l'œuf. Enfin, c'était pittoresque, mais. Bon, enfin, je suis revenu. Enfin, elle m'a donné le bouquet de fleurs. Elle m'a dit, moi, je vous offre le bouquet de fleurs. Et je suis parti, je me rappelle, avec le bouquet de fleurs. Avec
mobilette.
Ouais, c'était pas facile. Et puis voilà, bon, enfin, je suis revenu. Et voilà, donc je suis revenu quelquefois voir les tableaux, le voir. Mais les premières fois, je restais pas très longtemps. Il était impressionnant, Serge.
En plus, ça datait de votre enfance.
Oui, mais il était impressionnant. Il le faisait pas exprès, mais il avait une espèce de. Quand on le connaissait, après ça, bien sûr, ça se défaisait, mais il était impressionnant. Il a impressionné des tas de gens, hein. Même par la suite, j'ai su que certaines personnes étaient son aspect, sa voix, son... Bon, enfin, après, c'est passé. Et après, il m'avait dit, ah oui, tu venais, tu restais peut-être 5 minutes et puis tu partais. Tu n'avais fait qu'un grognement, on n'avait même pas trop parlé. Mais enfin, bon. Et puis, voilà. Bon, alors lui, après, je suis allé à la fac à Aix. Du lycée, je suis allé à la fac. Et à la fac, donc, j'ai été assez... À la fac de lettres. Et assez dépité par l'enseignement, quoi. C'était trop technique, on dépeçait les livres, quoi, les écrivains. Moi, ça m'intéressait pas trop. Je préférais lire le livre, puis divaguer à partir du bouquin. Enfin, comme on doit lire un livre, d'ailleurs, pas... Et puis je me suis dit, si tu continues là, tu vas te retrouver à la ville, tu vas être instit ou prof quelque part, et pas forcément, sûrement pas où tu veux, donc j'ai démissionné de la fac, et je suis allé travailler de mes mains. Je savais pas faire grand chose à part biner des lavandes, parce que je l'ai fait, ou distiller de la lavande, bon, des choses comme ça, mais même repeindre une pièce, je savais pas, quoi. Et pourtant, je suis allé faire ça, je me suis lancé auprès de gens, comme ça, je fais une bricole, puis petit à petit, je savais faire de plus en plus de choses, et puis je me suis embauché chez un maçon. Et je me suis embauché chez un plombier électricien. Bon, ça m'a armé un peu. Et j'ai commencé à vivre comme ça, de mon boulot, de mes mains, au marginal. Hein. J'étais pas déclaré, j'étais complètement comme l'oiseau sur la branche. Et ça a duré des années, des années. Bon, et puis, mais un jour, enfin au début de ça, ce début d'aventure, enfin de travail, de changement, j'étais plus étudiant, au début, il fallait que je cherche du boulot quand même. Alors il y avait des gens que je connaissais, bon, qui m'ont, à Banon, Bon, on m'a embauché pour refaire un bout de mur, pour enlever de la terre, pour des choses pas très qualifiées. Bon, puis après, et je me suis dit, mais au fait, ce Serge Furion là-bas, il a peut-être du boulot.
On est au début des années 80 à peu près, les années 70.
Ouais,
70.
Ouais. Avant 80, parce que. Avant 80. Ah oui, oui, c'était en 76, 77. Mmh. Oui. Et alors, je lui téléphone, je lui dis, on se vouvoyait toujours encore, je lui dis, je cherche du travail, je ne sais pas faire grand-chose, mais je cherche du travail. Travailler, j'ai rien, j'ai pas de matériel, mais bon, j'ai la volonté. Et il m'a dit, ah mais oui, oui, j'ai du boulot, il y a du boulot, le boulot déborde de partout. Parce que son frère Aldo, était comme, c'est lui qui faisait beaucoup de choses au village, enfin dans la famille Furio, qui faisait beaucoup de choses pour que son frère puisse peindre, et le maximum de temps pour peindre. Et en même temps qu'il ne s'abîme pas les mains, des fois c'est pour scier un bout de bois, tu peux te... Bon, enfin il le protégeait son frère. Et son frère Aldo était tombé malade, et il en est mort, et il était en train de... Et il m'a dit, oui, oui, j'ai du boulot. Donc, je suis allé, j'ai commencé à biner les oliviers, passer le motoc dans les oliviers, la tondeuse, enterrer un grand tuyau. Il m'a fait enterrer un grand tuyau du village à un jardin en bas, dans une tranchée. Il fallait faire une tranchée. Une tranchée, du moment que tu as la force, pas de qualification. Hein. Donc, j'ai fait commencer comme ça. Il m'a fait faire ces choses-là, et en même temps, il m'a présenté, l'été est arrivé, il m'a présenté à d'autres gens du village, qui venaient en vacances, là. Il y avait beaucoup de gens, il y avait des gens qui habitaient là, mais ceux qui habitaient là, ils n'avaient pas trop besoin de moi, ils se démerdaient. Mais les autres, les vacanciers, ah oui, j'ai des gouttières, j'ai le chiot de boucher, faudrait faire poser cette rampe là, ou bon, ben voilà. Alors il m'a présenté à tout le monde, j'ai travaillé dans toutes les maisons là-bas. Je les connais comme ma poche, parce qu'une fois que j'ai eu travaillé, on m'a gardé, quoi. On m'a gardé, j'étais...
Vous habitiez là,
Moi j'habitais, alors ça au début j'habitais à Banon, je circulais en mobylette, en mobylette. Et un jour, la sœur de Serge, parce que la sœur de Serge a fait connaissance aussi avec sa sœur, elle me dit, mais enfin, tu vas pas continuer à porter le casse-croûte, parce que je veux juste pour la journée, ou à porter le casse-croûte et à repartir, c'est compliqué, tu manges là, tu couches là. Et je suis rentré dans la famille. Dans la famille. Ils m'ont adopté, comme un enfant adopté. Et ben, ça simplifiait drôlement. Et après, j'ai bossé. Alors là-bas, je bossais surtout pas mal à Montjustin, mais enfin, à Rayanne, j'ai fait mon trou, quoi, ma clientèle. Et à Cérest aussi. À Cérest, il y avait beaucoup de personnes âgées qui ne pouvaient plus faire leur jardin. Et bon, âgées ou pas âgées d'ailleurs. Et même, j'étais arrivé à un nombre de clients que j'ai pu même trier, garder les plus intéressants, humainement, quoi, ceux qui étaient, parce qu'il y avait des gens qui étaient dégueulasses, comme un esclave, ils te prenaient, j'ai pas le temps, j'avais plus le temps, et puis voilà, donc... Serge, nos relations se sont rapprochées avec toute la famille, quoi. Je faisais partie de la tribu, quoi.
Puis chez lui, il devait y avoir plein d'artistes.
Il y avait Limogène qui venait l'été, un couple de Belges, de grands poètes belges. Lui, c'était le fils de Norge. Norge, c'est un grand poète belge. Et lui, c'était Jean Maugin, c'est le fils de Norge, mais c'est un grand poète aussi, moins connu que son père. Et Lucienne Desnoux, son épouse, quoi. Et ben, on a fait amitié, quoi, bien sûr. Alors lui, le Jean Maugin est mort assez vite. Mais Lucienne, après, je l'ai connue pendant 18 ans. Elle était veuve, bon, mais je faisais tout ce qui... Tout le monde était content. Moi, j'avais du boulot. Et eux, dès qu'ils avaient besoin, ils avaient une sécurité avec moi. Ils pouvaient m'appeler même à minuit. J'étais... Voilà. Et alors, finalement, j'ai cherché à... Je voulais acheter une maison, quelque chose. Et à Bannon, il y avait une amie de mes parents qui s'appelait Paula Bonfillon, qui venait en vacances, mais qui était une aixoise, mais très gentille et tout. Et elle avait un pigeonnier. Elle avait un vieux pigeonnier écroulé sur un bout de terre, un hectare presque. Et je lui dis, mais Paula, moi, je cherche justement un petit truc, un pigeonnier, c'est impeccable. Je voudrais l'acheter. Ah, l'année prochaine. Parce qu'elle, je lui faisais aussi des bricoles, là-bas, non. Ah, mais l'année prochaine, je te le vendrai l'année prochaine. Et elle m'a traîné comme ça 2-3 ans. Et moi, entre-temps, j'ai trouvé ça, moi, parce que...
Ça, c'est...
On était ici.
Oui, donc ici, on est...
À Saint-Laurent, à Vienne, quoi. J'ai trouvé, grâce à un maçon de Simiane, parce qu'on était plusieurs copains à vouloir acheter une maison... Et il y en a qui l'avaient acheté déjà. Et moi, j'avais un copain à Simiane, un à Montsalier. Et comme j'avais acquis des qualifications un peu en maçonnerie pour ouvrir une fenêtre ou n'importe quoi. Et eux aussi, on s'entraidait. Moi, j'avais pas encore ma baraque, mais moi, je les aidais. Et bon, et on, je sais plus comment. Mais après, quand ce pigeonnier, il arrivait pas. Alors, le maçon qui nous prêtait du matériel. Et il m'a dit, mais ce soir, je te montre quelque chose à Vienne, à Saint-Laurent. Bon, tu verras si ça te convient. Et il est passé avec sa dache, et après sa journée de travail, il m'a amené ici. J'ai dit, oh, ben ça, c'est juste ce qu'il me faut. Il y avait une belle lumière quand je suis arrivé.
Une vue magnifique.
Oui, oui. Et c'était au milieu de ruines, hein. Moi, c'était pas une ruine, il y avait encore le toit, mais bon. Mais sinon, c'était pas acheté encore.
Ça n'a pas encore été refait.
Voilà. Et donc, dans la semaine, j'ai acheté ça. J'avais pas l'argent. Moi, ça m'a coûté 7 millions. À l'époque, je sais pas ce que ça ferait en euros, mais enfin, c'était 7 millions en 1980. Tel que c'était pas habitable. C'était pas une maison, en dessous il y avait les brebis, et ici il y avait de la paille, des ballots de paille. Bon, bref. Mais j'avais acheté, et j'avais que 2 millions, et il y a un copain, qui était un peu plus friqué, qui m'a dit, mais demain tu viens avec moi en moto à Manosque, alors je vais sortir l'argent, je te prête les 5 qui te manquent. Et hop, après ça a été le notaire, ça a marché, quoi. Et puis comme on bossait beaucoup. Moi je bossais beaucoup, les autres aussi, mais moi aussi. Je lui ai remboursé ça très vite. Et bon, et donc voilà. Et lui, il avait une maison à Montsalier, mais il n'a pas duré longtemps. Il s'est tué sur l'autoroute, bon, à 25 ans. Mais enfin bon. Et puis quoi, ben une fois que j'ai été ici, ben bon, j'ai commencé à vivre en haut, là, cette pièce. Le voisin, il changeait sa cuisinière en bois. Moi, je l'ai prise. Et j'ai mis des rideaux là, je couchais en haut. Et je faisais de la peinture, je parce que depuis l'âge de peut-être 14 ans, je faisais un peu de la peinture. Mais là, je me suis installé à faire de la peinture. Et j'ai peint pendant plus d'une dizaine d'années. Et j'ai vendu chacun de mes tableaux.
Ah, il n'en avait plus, alors.
Non. Oh, mais j'ai arrêté parce que, ouais, mais c'était pas, ça n'avait rien d'extraordinaire. Il y avait quelques toiles qui étaient intéressantes, mais j'ai arrêté parce que justement, je trouvais que, bon, ça débouchait pas. Non, je me comparais pas, mais c'était pas du tout ce que faisait Serge, c'était beaucoup plus rude, beaucoup plus, mais, quand on n'a plus, qu'on voit qu'on n'est pas content de ce qu'on fait,
ouais,
c'est, même si on vous achète les choses,
non, c'est pas bien.
Et même je suis allé des fois dans des maisons, des gens qui m'en avaient acheté 3 ou 4, quand je voyais ce qu'ils m'avaient acheté, j'étais pas très bon,
Et vous, voyez Serge peindre, tout
oui.
ça.
Alors, ah oui, oui, oui. Oui. Oui, on discutait beaucoup de, de peinture. Lui, il disait toujours aux gens qui venaient, quoi. Après, avec les proches, on pouvait toujours discuter de peinture. Mais aux proches, il disait toujours, et c'est vrai, il disait, moi, je n'aime pas parler de ma peinture, je préfère peindre. Ouais. Mais quand on était dans son atelier, bon, il écoutait beaucoup, beaucoup de musique, tout en peignant, il écoutait beaucoup de musique.
Qu'est-ce qu'il écoutait?
Oh, de la musique classique, du baroque, beaucoup ça, quoi, jusqu'à Mahler, par là, mais après, non. Ça l'intéressait plus. Bon. Mais, puis il chantait. C'était un piémontais, lui, c'était un italien. Il chantait en peignant. Alors, quand il chantait en peignant, c'est que tout marchait bien, quoi. et donc, oui, on discutait de peinture. Bon, pas que de peinture, on discutait de tout, quoi. Et le dimanche, il y avait toujours des réunions de. Il y avait un ami qui était photographe à Marseille, Marcel Cohen. C'est pas un photographe connu, mais de grande qualité, quoi. Et il était là le dimanche, alors ça faisait une communauté. Celui qui venait, il venait, quoi. Il portait quelque chose ou pas. Et tout ça, c'est, puis on a connu des tas de gens, là, quoi. Il y avait Paul Genier qui était, lui, il avait créé les rencontres d'Arles, les rencontres photo.
Ah oui.
Avec Lucien Clergue, Michel Tournier et tout ça. Bon, il y avait des gens comme ça. On se demande comment. Mon Justin, ça a attiré des tas d'artistes, des photographes. Je sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça. Quoi. Bon, maintenant il y avait des gens qui n'étaient pas artistes, qui étaient tout aussi valables au village. Par exemple, les photographes, il y a Marcel Cohen. Marcel Cohen, c'est, bon, à Marseille, il est connu, mais c'est un grand photographe aussi. Bon, il y avait Lucien Clergue qui est venu à 14 ans, j'exagère, pas 14 ans, à 17 ans, il est venu à Montjustin, chez les Furiaux, par Paul Genier, qui était un Arlésien. Le Paul lui a dit, oh, mais il faut que vous alliez à Montjustin passer un week-end. En fait, ils sont restés la semaine. Bon, il y avait lui. Après, il y avait Doineau. Serge, il a rencontré Doineau à Paris parce qu'il faisait un déménagement pour la mère de sa belle-sœur. Et le gars qui achetait l'appart, elle venait se retirer à Montjustin, la grand-mère. Et celui qui achetait la part, c'était Robert Doineau. Et en discutant, en faisant les caisses, bon, en déménageant, il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ah ben moi je suis dans les Basses-Alpes, j'ai un troupeau de moutons, de chèvres, avec mon frère, et je fais de la peinture. Ah, il dit, oh les moutons, mais moi il faut que j'en photographie justement, est-ce que je peux venir? Et Robert Doineau, il est venu photographier des moutons, il a photographié les furiaux, il est revenu 2 années de suite, parce qu'il y avait une bonne ambiance, il était... Bon. Et bon, après, à Montjustin, il est arrivé Cartier-Bresson, et un jour, Serge me dit, quelqu'un sonne, hein, je vais ouvrir, il me dit, bonjour, je viens d'acheter une maison, je suis photographe, je m'appelle Henri Cartier-Bresson. Avec sa femme, qui s'appelle Martine Franck. Enfin, il y a eu toute une... Et puis des écrivains, bon, il y avait Lucien Jacques, lui... À Montjustin, comment dire, moi c'est ce que j'appelle Montjustin à la belle époque. C'est une époque qui a commencé par l'arrivée de Lucien Jacques en 1945. Lucien Jacques, c'était un ami de Giono, il était au Contador, ils avaient créé des rencontres qui ont duré de 35 à 39. L'été, surtout l'été et à Pâques, avant la guerre, une rencontre. C'était des pacifistes. Bon, le Giono, il y venait, mais en fait, c'est Lucien Jacques qui était un peu le pilier des rencontres. Là. Et ils ont fait amitié avec les bergers, hein, où il y avait plusieurs. Et Lucien Jacques, surtout Lucien Jacques, était de plein pied avec ce monde-là. Et donc, ils ont. Il a fait amitié avec Justin Nègre, qui était un berger, non. Et voilà que ce Justin Nègre, c'est quelqu'un qui a amené son troupeau l'hiver à Montjustin. parce que le, bon, pour l'hiver, c'était, il y avait encore un peu d'herbe, plus qu'au Contador. Et là, il a rencontré une fille du village, Césarie Médaille, et ils se sont mariés. Et comme il était copain des rencontres du Contador avec Lucien Jacques, il l'a invité au mariage. Donc, le Lucien Jacques, il était au mariage, et il était assis à côté du maire, au repas. Et en discutant, il est, comme il était fasciné par le village, un village qui était ruiné par les deux guerres, quoi. Il n'y avait plus que les Roures qui étaient là, avec deux mulets, dans le village. Après, les paysans des fermes en bas, ils y étaient, mais dans le village, il n'y avait plus grand monde. Et Lucien Jacques, ça, il y avait une ambiance, quoi. Il a dit, mais moi, j'aimerais bien acheter quelque chose, là. Et il venait de faire une expo à Londres, de ses aquarelles, parce que lui, il était aquarelliste, de talent, hein, de, vraiment. Il était écrivain et aquarelliste. Et alors, le maire lui dit, oh, si vous voulez, demain, je vous vends quelque chose, j'ai des tas de ruines, hein. Je ne sais pas quoi en faire. Mais l'autre, il avait un peu des sous, mais à l'époque, c'était pas cher. Il lui a vendu plusieurs trucs. Le château en haut, là, je crois, le château, enfin, en ruine. Et Lucien Jacques, il était ravi d'avoir acheté ça. Et il a commencé à s'installer là. Il y avait une maison en bas et le château en haut. Ben, enfin, il s'est installé. C'était rudimentaire, mais c'était, wow, j'étais heureux quand même. Et donc, ça a commencé avec l'arrivée de Lucien Jacques. Et après, Serge, lui, était dans le Tarn-et-Garonne à l'époque, pendant la guerre. Ils avaient une ferme avec son frère qu'on lui prêtait, où il faisait de la résistance aussi. Et ça a capitulé. Son frère a été blessé au talon par le tracteur. Enfin, ça ne marchait plus. Il y a eu un incendie. Et donc, ils sont partis. Et Serge est allé voir Genot à Manosque. Alors, il a fait du stop de, je sais pas où, là-bas. De
Tarn.
Ouais. Marcher à pied, stop. Enfin, peut-être un peu de vélo, je sais. Mais je crois que c'était à pied. Enfin, bref. Il est arrivé chez Genot, parce qu'il avait fait des séjours chez Genot l'hiver. Il avait fait son portrait en 34, tout ça. Bon, bref. Enfin, c'est compliqué. Il faudrait...
Oui.
Mais, donc... Il lui dit, eh, tu connais pas, on pourrait pas acheter quelque chose ici, parce que moi, la lumière ici, le pays, maintenant, on va plus dans le Tarn-et-Garonne, on veut plus retourner à Taninges, où ils étaient, dans la Haute-Savoie. Et Genot lui dit, je sais pas, mais va voir Lucien Jacques. Il m'a dit qu'il venait d'acheter plusieurs trucs. Peut-être qu'il aura quelque chose pour toi. Donc il va voir Lucien Jacques. Et Lucien Jacques, il dit, écoute, installe-toi, il accueille, il lui donne de quoi se coucher, manger, il dit, cherche, et puis on verra bien, qu'est-ce que... Bon, il lui a pas dit, je te donne, je te vends ça, ou... Mais, bon, Serge, il s'est installé, il a pu faire... Et il a... Alors, il a voulu amener son frère pour lui montrer si d'abord il était bien d'accord de s'installer là, parce qu'ils étaient très soudés.
Oui,
donc, son frère est venu, il a dit, oh... Pff, formidable. Et il est retourné faire ses jouets en bois à Taninges, lui, et Serge est resté là. Et il a fait connaissance du père le Duc, un paysan, célibataire, et donc il lui a dit, je voudrais bien acheter quelque chose. Et lui, le père le Duc, lui a dit, oh, ben, moi je vous vends une parcelle, et tout le ciel qui va avec. Oh! Tu te rends compte, c'est merveilleux. Donc, il a acheté cette parcelle. Ça, ils pouvaient l'acheter. Mais bon, acheter une maison, quelque chose, c'était plus... Bon, enfin, ils avaient ça, cette parcelle. D'ailleurs, sur cette... Là, il est en train de hercer... Sur cette photo, il est en train de hercer la première parcelle qu'ils avaient achetée, avec le mulet des Roures. Les Roures ne prêtaient leur mulet qu'à Serge. Bon. Enfin, bref, ils ont... Et après, Lucien Jacques leur a dit, oh, ben finalement, moi, je suis tout seul, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de... Je vous vends la maison, là. C'était l'ancienne forge. Juste qui touchait la sienne. Je vous vends ça. Oh, c'était pareil, c'était pas cher. Bon. Mais ils n'avaient pas l'argent. Mais ils ont fait la quête aux copains. Bon, ils ont trouvé, ils ont ramassé. Ils ont payé Lucien Jacques, c'était pas cher, il les a pas exploités. Et ils se sont mis à travailler. Ils avaient rien. Ils avaient cette parcelle, mais ça fait pas vivre. Hein. Et la maison en ruine non plus. Mais quand ils sont venus, ils ont demandé au maire, ils ont dit, est-ce qu'on peut pas s'installer au presbytère? Le presbytère était désaffecté, mais on pouvait y habiter. Il y avait l'eau. Pipi caca dans la vieille église du 13e. C'était à côté. Bon. Et le maire a dit, oui, allez-y, pas de problème. Même pas de loyer. Hein. Ils sont installés, ils pouvaient faire un jardin à côté. Ils ont fait un jardin. Et puis après, ils se sont mis... Enfin, ils ont loué leurs bras. C'est tout ce qu'ils pouvaient. Ils louaient les bras pour faire les vendanges, les moissons, des labours. Ils savaient les faire, ils savaient.
Il peignait.
Hein? Elle a peigné.
Non, enfin, non, il peignait déjà.
Serge, il peignait. Alors, de temps en temps, il vendait des tableaux, mais il en vendait aux amis. Ce n'était pas très...
Il ne vivait pas.
Non, il n'en vivait pas. Et donc, ils ont... bon, et après, ils louaient leurs bras pour les moissons, pour les travaux. Mais ça a marché. Hein. Et puis, ensuite, les Rours, c'était le vieux couple du village, de paysans, sans enfants. Et donc, ils ont dit, ce serait bien si on pouvait avoir un viager des Rours. On pourrait avoir des terres. Parce qu'ils étaient... Les Rours étaient au bout, quoi. Et alors, un truc extraordinaire, voilà que Serge, il voit passer le père Rour au pas de course avec son mulet, et il y avait un orage qui menaçait, comme ça. Et le père Rour, il voulait vite ramasser son foin, avant l'orage. Et voilà que Serge, il était paysan dans l'âme, il était peintre dans l'âme, mais paysan aussi. Il a vu ça, il a pris une fourche, il est allé l'aider, spontanément, comme ça, sans calcul, sans rien. Il est allé l'aider, et quand ils ont rentré le foin dans une grange à Lucien-Jacques, alors, parce que, bon, ils utilisaient chacun ce que ça pouvait faire. Et donc, le père Rour, une fois qu'ils ont tout rentré, tout, l'orage est tombé, hein, et le père Rour a dit, vous n'allez pas... Vous savez pas ce que j'étais en train de penser quand vous êtes arrivé. Alors Serge dit, non, je sais pas, qu'est-ce que je vous pensiez. Et il a dit, j'ai pensé que si quelqu'un venait m'aider, je lui laissais mes terres en viager. Ma maison et mes terres en viager. Alors vous êtes venu, si vous voulez, c'est pour vous.
Bien.
Et alors, il a tenu sa promesse. Il a dit, je me suis fait une promesse à moi. Si quelqu'un vient, ta. Et ça a marché. Alors Serge, alors là, ils avaient vraiment pas la somme, quoi. C'était plus important. Et là, ils ont encore fait la quête. Et parmi les copains de régiment de Serge, il y avait des gens qui avaient des usines, il y avait des gens plus... Il leur a dit, bon, on se trouve devant ce truc, vous avez un peu de rond. Et les autres, ça a marché. Ils ont rassemblé. Et Serge les remboursait en tableau. Vous voyez ? Ils étaient d'accord. Ils remboursaient en tableau. Et donc, ça a fait... Il y a des gens qui ont des collections d'une haute époque de Serge. Ils ont... Moi, je connaissais quelqu'un, ils avaient 3 enfants, mais... J'en ai connu un, et il avait au moins 40 tableaux de Serge. Et il avait 3 enfants, donc les autres en avaient autant. En fait. Ça... Et donc ça a marché. Et puis, Serge, il a commencé à gagner sa croûte. Après. Enfin, ils ont mis un troupeau de chèvres et de brebis. Ils ont fait des fromages. Ils ont cultivé des chrysanthèmes, parce qu'ils avaient la place maintenant. Il y avait un jardin en bas, avec la flotte, avec l'eau, il y a une source. Cultiver des chrysanthèmes qu'ils allaient vendre de village en village à la Toussaint. Ah. Ça se faisait, ça. Et sur une vieille guimbarde, ils allaient vendre. Moi, je me rappelle, maintenant, j'étais gamin, je l'ai fantasmé, ce truc, mais je les vois encore, parce que je lui ai demandé où est-ce que vous vous mettiez à Banon. Il m'a dit là, devant. Et c'était là que.
C'était avant de les voir.
Avant
de voir le tableau.
Voilà. Avant. Bien avant. Et il m'a dit, et d'un autre côté, lui, il m'a dit, il avait le souvenir, il ne pouvait pas l'inventer non plus, il m'a dit, je me rappelle d'avoir vu venir un petit bonhomme tenu par la main par une vieille femme en noir, comme ça. Et ma grand-mère, elle était toujours habillée en noir, voûtée. Enfin, c'est marrant, quoi, c'est des petits signes de... Et puis voilà, donc ils ont gagné leur côte. Et puis Serge, le Paul Jeunier, là, à Arles, il venait avec une Jeep, il leur portait des sacs de ciment, tout ça. Mais c'était une solidarité extraordinaire. Et il lui a dit, mais Serge, quand même, tu vois bien que tu ne fais pas d'expo, tu vas autour de toi. Il a poussé un peu à participer à des expos. Puis il y en avait plus d'expos. Il y en avait.
À partir du milieu des années 60.
Oui, il y en avait, ça commençait. Donc il a participé à des expos, commencé à vendre, à se faire connaître. Et en 1960, il vivait de sa peinture. Ah, il vivait de sa peinture. Et il faisait vivre les autres. Parce que bon.
Oui, et puis vous êtes arrivé après, dans un moment où
voilà.
Il avait sa vraie maison. Avec
voilà, la maison était faite, la peinture fonctionnait. Moi je suis arrivé là et lui il ne faisait que peindre tous les jours. Ouais. Ça et son jardin. Le jardin qui était sous la fenêtre. Et voilà. Et puis après, ça a duré.
Oui, mais raconte avec tous ces gens qui venaient chaque dimanche.
Oui,
univers culturel. Là,
voilà, les... voilà. Et ça, c'est ça évidemment.
Ça continue à vous nourrir, ça.
Ah oui! Eh oui, ça c'est une chance extraordinaire. Hein. Alors c'était pas qu'il voulait me faire rencontrer des gens, c'était que forcément. Et voilà. Voilà. Et alors il n'y avait pas de calcul, des fois je me dis mais t'aurais dû faire des photos. Mais on ne calculait, on vivait le truc.
Comme si ça allait durer toujours.
Ben oui.
Et ouais.
On aurait pu enregistrer quelqu'un ou faire des photos de choses. Oh, bon, il y avait heureusement qu'il y a le Marcel Cohen, il a fait ça un peu. Il était un peu le reporter de la tribu, vous voyez.
Et alors ça finit comment petit à petit?
Ah ben finalement les gens, bon par exemple Paul Jeunier, là, ça commençait que ben il y en a un qui mourait. Hein. Paul Jeunier, il est mort en 83. Jean Mauger, il est mort en 86. Bon, puis il y avait des gens qui sont pas artistes, mais qui étaient des vrais amis, aussi des très belles personnalités. C'était par la mort. Hein. Et Serge, il a vu partir tout le monde, puisqu'il est mort à 100 ans. Hein, et il lui restait quelques mois pour avoir 100 ans. Et ça s'est fini. Ben, ça s'est fini que finalement. Il y avait de moins en moins. Bon, sa sœur est morte aussi, sa belle-sœur. Enfin, lui, quand quelqu'un mourait, il disait « Oh, merde !» Et puis, il peignait, il allait peindre. Il restait pas sur le chagrin ou sur la nostalgie, vous voyez. Il restait... Il passait, il fonçait, il continuait. Et donc, finalement, il se retrouvait tout seul, quoi. Alors, moi, je bossais là-bas, j'essayais de bosser le maximum là-bas, parce qu'il était âgé, alors on faisait la cuisine ensemble. Moi, j'étais libre, hein, je n'étais pas déclaré, je faisais ce que je voulais. Bon, c'est pour ça que j'ai pas de retraite, de rien du tout, parce que j'étais comme marginal jusqu'à...
On est en quelle année, là?
Jusqu'à... avant... Moi, comment dire, enfin, il a été avant ça, avant d'être tout seul, enfin, il était, comment dire, moi j'ai rencontré Nora, ma femme, en 1989, et en 80, alors on allait le dimanche avec lui, mais je bossais pas forcément là-bas, mais bon, il était encore très en forme, hein, il se débrouillait, enfin, bon. Puis après, on a eu deux enfants, des jumeaux. Alors ça l'a amusé. Bon, comment dire, alors on allait le dimanche, il faisait la tarte pour les gamins, enfin, il la cachait dans sa cuisine pour qu'ils la découvrent. Bon, bref, il venait ici, passer le dimanche, ou chez lui, ou ici, ou dans la semaine, ça il veut péter, il venait, il mangeait avec nous et tout. Et bon, ben, il y a eu cette période qui était très très bien pour lui, parce que lui n'avait pas, il est resté toujours célibataire, parce que en fait il était à voile et à vapeur, Serge. Il a eu des aventures avec des femmes, 5 ou 6 femmes, et des hommes peut-être un ou deux, mais comment dire, il était il pouvait pas, il s'est pas marié parce que il y avait sa peinture, ça prenait dans sa vie un espace
gigantesque,
un volume, et c'était une famille italienne. Une famille italienne, tu rentres, une femme, elle rentre, mais même si la mère Furio était très très large d'esprit, est-ce que, et puis, une femme, tu comprends, si tu te maries, c'est pas pour dire le dimanche, oh ben moi je peins, hein. Enfin, il faut une place. Donc ça s'est jamais fait, mais lui a toujours rêvé, avait toujours rêvé d'avoir un enfant. Une fois, il pensait qu'il allait avoir un enfant, avec, je sais plus comment elle s'appelait. Et puis, ça, la fille, ça n'a pas marché, ils se sont séparés, et il a dit, c'est comme si j'avais pris un gros caillou au milieu du front, quoi. Il en avait souffert, il y avait toujours, alors nous, quand on a eu les enfants, il y en avait deux, c'était marrant, en plus, deux du même âge, garçon et fille, il est venu là, comme, parce qu'il avait, l'enfance, pour lui, l'enfance, ça comptait beaucoup. Dans sa peinture, c'est très présent, le truc d'enfance, il a peint des chevaux de bois, il a peint des trucs, il a peint des, puis même, en fait. Donc, il y a eu cette bonne période avant que, bon, ben nous les enfants ont grandi, ils sont allés, bon, et avant qu'ils se retrouvent assez seuls, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient morts. Et bon, et alors moi, j'essayais de, bon, qu'ils soient pas trop seuls, quoi, que je sois le maximum avec lui, et donc. Je faisais la cuisine avec lui. Bon. Puis un jour, je voyais le matin, j'arrivais des fois, la cuisinière à gaz était allumée depuis la veille.
Ah ouais.
Des trucs comme ça qui commençaient à. Alors je dis, j'ai rien dit. Le lendemain, enfin, dans les jours qui ont suivi, c'est arrivé une fois ou deux. Je dis, Serge, tu as laissé le gaz allumé. Bon, oh merde. Bon. Et après, je ne lui ai pas parlé de mon boulot, tout ça. On avait un peu de réserve d'argent, et puis ma femme, elle bossait à l'hôpital. J'allais chez lui, le matin, on faisait la cuisine, ou on faisait le jardin, on allait faire une balade, tout ça. Puis un jour, au bout de 15 jours, il m'a dit, mais au fait, mais il avait changé de... Il m'a dit, mais tu vas plus bosser? Qu'est-ce que tu es tout le temps avec moi? Comment c'est possible? Enfin, qu'est-ce que... J'ai dit, ben, tu vois bien, Serge. Tu laisses le gaz allumé, tu as fait ci, tu as fait ça. Il faisait des petites conneries, quoi.
Oui,
d'ancien. Et oui, alors je lui ai dit, écoute, maintenant, je reste avec toi, et puis on va se démerder. Bon. Alors, il m'a dit, oh, mais alors... je vais te déclarer à mi-temps. Bon, à plein temps, il pouvait pas, parce qu'il avait pas, il était pas riche, Serge. Il avait vécu, il avait vendu ses tableaux à mesure, mais bon, il peignait encore, hein. Il y peignait encore, il a peint jusqu'à 95 ans. Et à 95 ans, moi, je lui ai dit, maintenant, arrête, parce que, dès qu'il peignait une maison, elle était des trucs de traviole. J'ai dit, arrête, il faut arrêter, quoi. Enfin, bon, à la fin, il a arrêté. Bon, déjà, il avait arrêté la bagnole, parce que... Et donc, je me suis occupé de lui pendant 6 ans. J'allais le matin, là-bas. Alors, après, il y a eu les infirmières pour la toilette. Il était valide, mais bon, il faisait la toilette. Et... alors on buvait le café avec les infirmières, on rigolait, on disait des conneries. Et pendant 6 ans, eh ben, on a fait des discussions, on a fait des promenades ou en voiture. Et après, bon, ben lui, son corps, ça n'a jamais cessé de baisser. Et à la fin, mais seulement les 3 dernières semaines. Je lui ai dit, écoute, là, Serge, non, maintenant, il faut que je sois là jour et nuit, c'est pas possible. Alors, tu viens chez nous, si tu veux. Ah, il dit, ah, bah oui, tiens, je vais un peu en vacances chez vous. Et puis, bon, on a installé un lit médicalisé pour que puisse monter, descendre, tout ça. Il était là. Et pendant 3 semaines, alors, 3 semaines, il était, ah, mais les jambes tenaient plus. Donc, fauteuil roulant, on faisait des tours là, on pouvait même plus descendre. Enfin, il est monté avec sa canne, mais il a jamais pu descendre. Hein.
Non, c'est impossible.
Et bon, enfin, le soir, il y avait les gosses qui arrivaient du lycée ou de l'école. Pas du lycée encore, à l'école. Enfin. Et bon, ben, et il était là, on l'a mis là, parce que, comme ça, il était avec nous. Mmh. C'est parce que tu te fous dans une chambre, hein. Même allongé, il était avec nous. Mmh. Parce que si tu es dans une chambre bloquée, c'est pas rigolo. Là, ça marchait bien. Et voilà, et puis un jour, il baissait, quoi. Et un jour, je lui dis, la veille de sa mort, il était assis là, ça c'est son fauteuil, il était assis là, je lui dis, alors Serge, qu'est-ce qu'on raconte? Parce qu'il roulait les airs, et moi quand j'arrivais chez lui, à Montjustin, j'arrivais de l'extérieur, il me disait, alors qu'est-ce qu'on raconte? Et là, pour inverser le truc, je lui dis, alors qu'est-ce qu'on raconte? Un matin. Et il me dit, il avait la voix qui avait baissé et tout, il me dit, je pense à Cimabue. Il pensait, la veille de sa mort, il pensait à un peintre du XIIIe siècle. Oh, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait un grand plaisir. Il n'était pas dans l'angoisse. Il était pas dans le... Il savait qu'il allait mourir, puisqu'on avait discuté. Il m'avait dit, je veux être enterré à Montjustin, à tel endroit. J'ai dit, non, là, tu peux pas. Il discutait de ça. Tu peux pas, c'est plein, là. Mais il me dit, mais en face, là, il y a une place. Il savait. Parce qu'il était maire, il avait été... Je connaissais le cimetière, en plus. Il avait toute sa famille, là. Et donc, il avait pas peur de la mort. Et la veille de sa mort, il pensait à un peintre du XIIIe siècle. Bon. Et le lendemain, alors le Toubi venait chaque semaine, alors, mais bon. Et le matin, Nora, elle allait partir, elle était en tenue de l'hôpital, elle allait partir pour aller bosser, quoi. Mais elle m'a dit, tu sais, Serge, il est pas. Elle avait l'habitude de voir mourir, elle sentait qu'il allait mourir. Et elle me l'a dit, elle m'a dit, tu sais, ce matin, il est vraiment pas bien, là. Et moi, je n'ai pas l'habitude, je ne me rendais pas trop compte, ou je ne voulais pas voir, je ne sais pas. Et donc, elle s'en va, et d'un coup, j'entends gueuler. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'était nuit quand elle partait. Elle était tombée, elle s'était foulée la cheville. Oh, alors, elle a remonté, et puis elle a dit, non, mais je ne vais pas travailler, je ne peux pas. Et toute la journée, nous, on marche, je ne peux pas... dans les couloirs et tout ça, les chambres. Donc elle est restée. Cette chute a fait que, quand il est mort, elle était là, quoi. Parce que... Donc, voilà, il est mort tranquillement. Trois souffles, ouf, je vois encore. Comme une lampe. Voilà. Et puis, bon, là... Il était enterré à Montjustin, voilà.
Et ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était en 2011. En 2011. Et après, bon, moi, je suis resté 3 ans comme ça, vous, un peu... Pas 3 ans, non. Enfin, 3 ans avant de faire mon blog, de créer un blog à son sujet, pour perpétuer un peu tous ces souvenirs, pour que ça se perde pas si vite. Bon, et puis moi, ça me remplit la vie encore.
Et vous avez créé le blog?
Oui, voilà.
C'était à peu près 3 ans après.
Voilà, en 2014, en janvier 2014. Mmh. Mais quand il est mort, j'ai fait... Bon, j'étais là, j'étais... Quand il est mort, j'étais... abasourdi, il fallait que je prenne mes jumelles, là. J'allais sur la colline, et je regardais Montjustin.
Ah, on le voit d'ici, du haut de
la colline,
on voit
ouais. Montjustin. Ah. Et j'étais... Bon, puis j'ai dit à Nora, mais... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, il faut que j'aille voir Montjustin, je sais pas. Elle me dit, bon, tu fais une déprime, hein, tu fais une dépression. Et dès que, ça a duré une paire de mois, quoi. Et dès qu'elle m'a eu dit la chose, paf, c'était fini. J'avais pris conscience.
Ah ouais.
Ça s'est dissous. Ah ouais. Et puis je suis resté un peu comme ça, bon. Et puis après j'ai dit, tiens, Oui, c'est les gosses à l'école, au lycée. Il fallait qu'ils achètent un ordi, qu'ils aient un ordi à la maison. Et quand ils l'ont eu, ils m'ont dit, mais enfin, parce que moi j'écrivais depuis longtemps des trucs. Bon, ils m'ont dit, mais arrête ta vieille machine là, regarde l'ordi, c'est tellement facile et tout. Ils m'ont initié à ça. Oh, j'ai dit, oh, super. Voilà.
Et à ce moment-là, il y a le blog, et dans ce blog...
Voilà, vous... je repasse tout ça, je développe, je... Voilà, ça fait une... Comment dire, ça foisonne les trucs. Et puis ça fait plein de contacts, ça fait des choses...
Ah, ça a apporté des...
Ah oui.
Alors c'est quoi? Par exemple, un exemple.
Que ça a apporté?
Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, le blog de...
Moi, ça m'a apporté que je partage ce que j'ai reçu.
Ouais.
Puis il y a eu des choses... moi j'ai suscité des textes aussi pour d'autres personnes, comme par exemple Jean Benoît, l'anthropologue d'Aix. Je lui ai suscité d'écrire quelque chose parce qu'il aimait beaucoup cette peinture, il a fait. Et puis avant que Serge meure, alors ça c'était aussi très très intéressant, c'était la rencontre de Claude-Henri Roquet. Claude-Henri Roquet, c'est un écrivain critique d'art, écrivain, enfin pas romancier, mais poète aussi. Et ce gars-là, en 2010, à l'automne 2010, j'étais à Apte comme ça. Moi j'écrivais, parce que avant que Serge meure, j'avais mis en route un bouquin que j'avais intitulé « Pour saluer Furiot ». Et je voulais le faire avant qu'il meure. Et bon, moi j'écrivais ça, et j'étais en train d'écrire sur un tableau de Serge qui s'appelle « La mort du camarade ». Il a restitué, il a mis en image, enfin, un récit de résistants qui sont venus le voir, qui lui ont raconté la mort d'un camarade, et la scène, quoi. Ils l'ont entouré dans sa mort, et Serge en a fait un tableau. Et ce tableau, bon bref, enfin, moi un jour je lui dis « Mais tu sais Serge, ce tableau... c'est une descente de croix, ça s'appelle une descente de croix, la composition, tout ça. » Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes là ? J'ai jamais pensé à ça. » Mais j'ai dit « Ben oui, mais bon. » Et en même temps, c'est une... Je lui ai dit aussi, c'est... parce qu'en écrivant, tu regardes les tableaux et ils te viennent des... Et aussi, je trouvais que c'était une suite. Il y a un tableau de Goya qui s'appelle « El Tres de Mayo ». Le mec est comme ça, et Goya lui a même fait les gouttes de sang dans les mains. Bon, bref. Et je lui dis, tu sais, c'est aussi ton tableau, parce que lui, le sien, il est à terre, sur son bras en équerre, son résistant en train de mourir, en chemise blanche, comme le résistant de Goya. Et je lui dis, tu sais, c'est aussi ton tableau, c'est une suite au tableau de Goya. Oh, mais qu'est-ce que tu... Voilà, bon, en fait... Il faisait des choses, c'était un bon canal, Serge, pour certains, un bon canal. Mais il n'avait pas toujours conscience de ce qu'il peignait. Bon, bref. Et alors, enfin, bref, je parle de ce tableau de Goya, là, parce que justement, j'étais à Apte, j'étais en train d'écrire ce truc. Serge, je voyais qu'il était à Montjustin, mais je voulais faire ce bouquin avant, pour qu'il l'ait. Et en partant, enfin. Et donc. J'étais dans ma, je dis, oh, je veux sortir, je veux un peu dans ma, te promener, changer les idées, parce que écrire, j'étais, ça fait du bien aussi. Mais dans la rue, comme ça, je pensais à ce que j'étais en train d'écrire, quand même, sur ce tableau. Et je vais jusqu'en bas, devant la librairie, je vois un espèce de grand druide, là, assis à une table, c'était un samedi, un jour de marché. En train de signer et de faire la dédicace, les dédicaces pour un livre, un énorme livre comme ça, noir. Et je vois ce gars avec sa femme derrière, debout, et je m'approche, et il y avait des gens qui regardaient, et je vois ça, et je dis, tiens, un bouquin sur Goya. Et moi j'étais en train de penser à Goya, tout ça, bon, en rapport avec le tableau de Serge, et je regarde le bouquin et je vois le nom je lis le nom de l'auteur, Claude-Henri Roquet. Je dis, mais c'est quand même bizarre, ce type-là, tu le connais pas. Mais le nom, tu le connais. J'ai jamais lu un livre de Claude-Henri Roquet, pourtant non plus. Mais alors, d'où je sors ça? Alors, je suis allé faire un aller-retour dans la rue et paf, c'est venu. J'ai dit, je suis retourné le voir, enfin, je l'ai interpellé cette fois, je lui ai dit, vous avez écrit un article sur un recueil de Lucien Desnoux. Lucien Desnoux, c'était un poète que j'ai connu à Montgestin, quoi, pendant 20, 30 ans, 40 ans. Et vous avez écrit un compte rendu de son recueil, très élogieux, très... Il m'a dit, oh, ben, bien ça, alors. Vous connaissez Lucien, et comment, et pourquoi et... Donc, je lui explique. Et il me dit, vous écrivez, vous aussi? Je lui dis, bah, je suis en train d'écrire, justement, sur un tableau d'un ami qui est en rapport avec... Enfin, que je trouve en rapport avec une tasse d'émail de Goya. Et... Il me dit, mais ça alors, mais qu'est-ce que, qui c'est ce peintre? Alors je lui dis, il s'appelle Serge Furiot. Il me dit, oh, pff, non, Lucien ne nous en a jamais parlé. Elle n'avait jamais parlé de Serge avec lui. Bon. Et alors, je lui achète le bouquin. Bon. Et il me dit, mais on va quand même, on va échanger nos adresses. Et alors, on échange les adresses et le téléphone. Et moi, quand je reviens, je dis quand même, ce type-là, il écrit sur la peinture, ce serait une bonne idée de lui offrir le livre. On avait fait un album en 92, un album d'œuvres de Serge, un libraire de Manosque, un beau bouquin, je peux vous le montrer. Et je dis, tiens, ça c'est quelqu'un à qui offrir ce livre. Moi, on m'en avait donné 7 ou 8 exemplaires, parce que j'avais écrit là-dedans la biographie de Serge. Ah, j'ai dit, tiens, ce serait une bonne idée de la prochaine fois, peut-être. Il habite à Gordes, il venait à Gordes, il avait une maison à Gordes. Paris et Gordes, bon. Mais voilà que, un mois après, il me téléphone, il me dit, je reviens à Apt pour signer un autre bouquin que j'avais écrit, mais que j'ai revu et augmenté sur Bruegel. Et si vous voulez, on peut se revoir. Ah, je dis, oui, justement. Je voulais vous offrir pour Noël un album de Serge pour vous faire connaître Serge Furiot. Ah ben oui, d'accord, ouais. Alors je lui porte le bouquin, il regarde, il me dit, oh, ben c'est très intéressant, c'est formidable, je connaissais pas. Et moi, entre-temps, je m'étais dit, moi j'étais toujours en train d'écrire mon truc, je m'étais dit, ce type-là, tiens, je pourrais lui demander, mais je connaissais pas trop, mais je pourrais lui demander quelques pages, 2-3 pages de préface.
Oui,
ou...
ben oui.
Quelque chose. Et là, je lui dis, mais j'ai pensé vous demander 2-3 pages de préface, quelque chose, puisque vous voyez les œuvres. Bon. Mais il me dit, mais maintenant c'est trop tard, hein, le livre il est chez le maquettiste. Hein. Il me dit, oui, alors il est chez le maquettiste, qu'est-ce que ça peut foutre? Ça attend. S'il faut, laissez-moi voir. Et il me dit, et non seulement regarder l'album et le lire et tout ça, mais aussi amenez-moi voir Serge. Ah, j'ai dit, ben oui, bien sûr. Alors, comme ils n'avaient pas de bagnole, ils ne conduisaient pas ni l'un ni l'autre, je suis allé à Gordes les chercher et je les ai amenés à Montgestin. Alors, Serge, c'était à l'automne 2010 et il est mort le 11 janvier 2011. Il était assez au bout, mais. Encore assez pour tenir la conversation. Et donc, ils sont venus avec sa femme. On a passé l'après-midi à Montgestin, dans l'atelier, à discuter. Ils ont posé des tas de... Lui, surtout, a posé des tas de questions à Serge, et a raconté tout ça, pour faire ces 3 pages, enfin, pour le rencontrer, mais aussi pour nourrir ses... Et donc, il a fait ça. Et puis, il est parti. Et puis, très vite après, il m'écrit... Il me téléphone, on a commencé à se téléphoner. Là. Il me téléphone et il me dit, ça y est, j'ai la première ligne, j'ai la première phrase. Je dis, ah bon, mais c'est chouette et tout. Bon, il continuait, il était inspiré, ça l'avait... Bon, et puis quelques jours après, il me dit, mais ce sera pas 3 pages, c'est 60 pages. Oh, je dis, bon, ben, c'est inespéré, quoi, parce que moi, jamais j'aurais... oser lui demander ça, puis d'abord je pouvais pas le payer, mais il m'a dit non, mais c'est pas pour être payé.
Non,
c'est...
Non, c'est parce que
donc, on a fait ça. Alors, quand il a eu écrit ses 60 pages, moi j'avais fini, moi, je l'ai attendu. Et Serge était encore... on allait prendre le soleil avec deux fauteuils là au soleil. J'ai pris les deux textes et je lui ai lu. Je lui ai tout lu au soleil, tranquille. Et il a dit, oh, mais oui, mais c'est bien. Enfin, il n'a pas fait de remarques. Aucune remarque de... Non, il était content. Bon. Et donc, très vite, moi, j'étais prêt à lancer l'affaire avec un imprimeur d'une... À Manosque, c'était une association pour les jeunes handicapés. Soi-disant, ils travaillaient dans l'imprimerie. Mais bref, bon. Je voulais aller là, pourquoi pas faire un... Là. Bon. Et voilà que Serge... Non. Alors, il a très vite été chez nous. Et un jour, il me dit, le livre J'ai dit, écoute Serge, je peux pas. Je te l'ai lu, on te l'a lu, mais je peux pas être à la fois ici toute la journée et à Manosque, parce qu'à l'imprimerie, il fallait y aller, quoi. J'ai dit, c'est pas possible, mais bon, tu sais qu'il est fait, que tu l'as lu, je te l'ai lu, quoi. Bon, enfin bref. Puis après, très vite, il en a pu parler, parce que... Bon, on discutait, mais... Et donc, le livre est paru quand il a été décédé en janvier. Eh ben, moi, j'ai pu me mettre à faire ça. J'étais déprimé, hein. Mais j'ai pu aller voir cet imprimeur et le faire. Et donc, et comme Serge faisait partie à Rayanne, d'une association qui s'appelait Les Amis des Arts, une association du village, hein. C'était un couple d'amis à lui qui avait créé ça. Il faisait des expos, il faisait des bulletins, il publiait un bulletin trimestriel. Des décomptes, des trucs. Bon. Henriette, là, elle m'a dit, oh, mais cet été, on fait une expo de Serge. Pour pas fêter sa mort, mais...
Non, commémorer.
Voilà, on le fait tout de suite. Et moi, mon bouquin a été fait. Au mois de juillet. Alors, on a fait l'expo, on a trouvé des tableaux, moi j'en avais, le neveu de Serge en a prêté, enfin... Pour la petite salle des Amis des Arts, il y avait 40 toiles, c'était... on les a trouvées facilement. Et moi, elle m'a dit, tu viens bien sûr vendre ton bouquin, quoi. Alors, on a une petite table, une chaise, et je vendais mon bouquin. Et le soir de la première journée de l'expo, moi, j'avais payé la fabrication. Tout le monde m'a acheté le bouquin.